Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir. Christine Goémé, bonjour à tous. Aujourd'hui, les cours du Collège de France. Depuis 2008, année de son élection au Collège de France, Han Cheng, titulaire de la chaire Histoire intellectuelle de la Chine, analyse les effets de continuité et de rupture entre la Chine ancienne pré-impériale et impériale et les nouvelles Chines, la Chine républicaine de Sun Yat-sen, la Chine de Mao et la Chine d'aujourd'hui. Dans un premier cycle de cours, elle a montré comment Confucius, qui est la figure tutélaire de la Chine ancienne, a pu être successivement célébré, honni, revisité et finalement ressuscité, selon son expression, comme figure d'un humanisme universel à la chinoise. Elle s'est intéressée à son retour en force dans l'idéologie de la Chine du XXIe siècle, à son utilisation par les intellectuels américains et aux travaux conduits sur l'histoire du fameux confucianisme, terme inconnu en chinois. Elle a également montré dans son cours de l'année 2012-2013 comment le nom de Confucius était un mythe qui désignait une concrétion, un assemblage de textes venus d'horizons divers, fabriqués un siècle avant notre ère sous la dynastie des Han. L'an dernier, Han Cheng a ouvert un nouveau cycle d'enseignement en élargissant son enquête à toute la culture ritualiste chinoise et pas seulement à la figure de Confucius, qui reste malgré tout majeur puisque le ritualisme chinois se définit comme l'enseignement des lettrés. Elle avait commencé à s'interroger sur la compatibilité entre humanisme et culture ritualiste. Cette année, elle resserre la focale sur ce qu'elle appelle le continuisme anthropocosmique de la culture ritualiste chinoise, c'est-à-dire la permanence de la croyance qu'il existe un lien entre les actes humains et le cosmos. Ce matin, Han Cheng rappelle que l'idée que se font les Chinois de la religion, ou plus précisément de ce qui s'en rapproche le plus et qu'ils définissent comme l'enseignement des lettrés, construit la prétention chinoise à l'universalité. Écoutez.
Dans le monde actuel, la Chine occupe une place massive et qu'elle pèse de tout son poids, qu'on tend à mesurer en termes avant tout économiques et géopolitiques. Or, il me semble nécessaire nous efforcer, d'une part, d'aller au-delà des chiffres et des purs rapports de force, et d'ouvrir la réflexion sur la profondeur de la longue durée. Et il me semble également important, d'autre part, de ne pas suivre la tendance médiatique à parler de la Chine, prise comme une entité isolée et autosuffisante, mais de la replacer dans un espace de circulation beaucoup plus large, où cette Chine entre nécessairement en interaction avec d'autres qu'elle, un espace où elle bute sur ses limites, où elle se trouve confrontée à des regards critiques, où elle est renvoyée à des interrogations sur elle-même. Alors cette Chine, si longtemps et encore maintenant représentée comme autre dans l'imaginaire européen et qu'on a si souvent décrite comme fermée à l'autre, retranchée derrière sa grande muraille, cette Chine n'a-t-elle pas été plus diverse, plus cosmopolite qu'on ne l'a dit ? N'a-t-elle pas eu conscience de faire partie du monde plutôt que d'être un monde à elle toute seule ? Et ce, bien avant l'époque somme toute récente, de l'intrusion européenne. Et ce que je vous propose à partir de cette année, c'est de tester tous ces points d'interrogation et chercher des éléments de réponse à ces questions en considérant donc la Chine en particulier dans ses rapports d'abord historiques avec ses grands voisins que sont le Japon et l'Inde. Alors, en réalité, tout au long de ces dernières années, nous avons été amenés à sonder et à interroger sous divers angles la prétention chinoise à l'universalité. Et c'est donc maintenant précisément cette question de l'universalité chinoise et de ses limites qui va nous occuper maintenant. Alors, dans les très grandes lignes, il s'agira pour nous d'examiner comment cette universalité à la chinoise s'est constituée, mais aussi comment elle s'est trouvée décentrée, notamment dans ses contacts avec l'Inde, et comment elle s'est trouvée même contestée, en particulier dans son interaction avec le Japon. Alors, comme je viens de le dire, mon objectif est d'arriver à sortir de la fixation actuelle sur la Chine prise dans l'absolu, en ouvrant la perspective sur ses relations avec deux de ses principaux voisins, donc l'un à l'est, l'autre à l'ouest, qui ont chacun, à sa manière, joué un rôle déterminant dans son histoire culturelle. Mais avant de nous lancer dans le vif de ce sujet touffu et de commencer à en explorer les infinies complexités, je préfère vous dire que ça va nous occuper pendant un certain temps, avant tout cela, il me paraît important, ne serait-ce que pour ceux d'entre vous qui n'ont pas suivi notre itinéraire jusqu'à maintenant, de rappeler ce qui nous a amené à soulever une telle question, c'est-à-dire donc cette question de la prétention chinoise à l'universalité. Alors, comme certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, nous avons commencé à interroger cette prétention en nous demandant en quoi se justifie la qualification d'humanisme désormais appliquée de manière conventionnelle et je pourrais même dire routinière à ce qu'on a appelé dans les milieux européens donc le confucianisme, c'est-à-dire plus spécifiquement Confucius et son enseignement. Effectivement, dans ce contexte européen dans lequel nous vivons, donc nous avons tendance à considérer que justement notre humanisme européen est par nature universaliste et que notre, on pourrait dire, notre conception des droits de l'homme est elle aussi également universaliste. Or, la Chine semble proposer quelque chose de différent du point de vue donc de l'universalisme. Alors, si humanisme implique universalité, on peut aussi se demander en quoi cet humanisme confucéen peut prétendre à l'universalité au sens où on l'entend communément ici des religions de type universaliste comme le christianisme, l'islam ou le bouddhisme. Alors, derrière cette question se profilait inévitablement celle de savoir si le confucianisme est à ranger dans la catégorie philosophie ou dans la catégorie religion, ce qui est une sempiternelle et lancinante question qui nous poursuit encore aujourd'hui. Alors, au cours de ces dernières années, nous avons retracé les tribulations, non pas d'un Chinois en Chine, mais de Confucius et de son enseignement, déplacés en quelque sorte comme des pions sur l'échiquier de la géographie intellectuelle européenne moderne. On est ainsi passé de la figure de Confucius pris comme philosophe dans l'idéal rationaliste des Lumières européennes du XVIIIe siècle. Je vous rappelle que la traduction faite par les jésuites d'un corpus important du canon confucéen, donc, a été intitulé donc en 1687, fin du XVIIe siècle, Confucius Sinarum Philosophus, donc Confucius, philosophe des Chinois. Alors, donc, on est passé de cette figure du Confucius Philosophus au confucianisme, considéré non plus comme philosophie, mais comme religion dans l'Europe du XIXe siècle. Cette Europe du XIXe siècle qui donc a défini son identité comme étant d'origine grecque et par conséquent comme ayant une sorte de monopole justement de cette catégorie de philosophie dont la Chine s'est trouvée exclue et donc reléguée dans la catégorie de religion. Alors, ce n'est donc pas seulement la figure de Confucius qui s'est retrouvée au cœur de ce que nous avons appelé la première mondialisation au XVIIe et XVIIIe siècle. La grande question de savoir si le confucianisme est à placer dans la catégorie de religion est une question qui a été soulevée donc par la science des religions, qui est une discipline universitaire nouvelle, apparue dans la seconde moitié du XIXe siècle. Et donc, cette question du confucianisme comme religion a pris également une dimension mondialisée au tournant des XIXe, XXe siècles. Alors, je vous rappellerai qu'au début du XXe siècle, la rivalité franco-anglaise dans le domaine des études chinoises, cette discipline spécifique qu'on a appelée la sinologie, donc cette rivalité franco-anglaise s'est doublée d'une rivalité franco-allemande dans le champ alors nouveau de la sociologie. En effet, face à l'école française de Durkheim et de Mauss, représentée en sinologie par Marcel Granet, se sont développées donc les thèses du sociologue allemand Max Weber. Alors, dans son ouvrage Confucianisme et Taoïsme, l'un des volets de la grande trilogie que Weber a consacrée entre 1915 et 1920 à l'éthique économique des religions mondiales, au chapitre 6 de cet ouvrage intitulé L'orientation confucéenne de la vie, Weber écrivait de manière tout à fait juste, donc Weber encore une fois n'était pas sinologue, mais dans son Confucianisme et Taoïsme il y a beaucoup de choses tout à fait justes sur la civilisation et la société chinoise. Weber écrivait ceci, je cite, « La langue ne connaît pas de mots particuliers pour religion. On trouvait, premièrement, la doctrine, ce que Weber appelle en allemand « Lehre », donc la doctrine, il est en train de parler de l'enseignement de l'école des lettrés. Deuxièmement, des rites, sans que l'on distinguât s'ils étaient de nature religieuse ou conventionnelle. Le nom chinois officiel pour désigner le confucianisme était « doctrine des lettrés ». Et il donne donc en transcription de l'époque ce terme chinois de « zhu jiao » sur lequel je reviendrai. Alors je continue la citation. « Le rapport au religieux, quelle que soit la nature de celui-ci, magique ou cultuel, conservait dans ce contexte un sens orienté vers l'ici-bas. » Fin de citation. Donc ici, Weber revient donc à son thème favori, qui est donc de montrer que le confucianisme ne connaît pas la transcendance, il est entièrement dans l'immanence, et c'est donc pour mieux l'opposer à l'éthique du protestantisme, qui, selon Weber, explique pour une large part donc l'émergence du capitalisme moderne en Europe. Donc, dans l'esprit de Weber, le confucianisme joue un rôle, si vous voulez, de contraste, enfin, pour montrer que justement le confucianisme explique qu'il n'y ait pas eu justement cette émergence d'un capitalisme en Chine, ce qui évidemment à l'heure actuelle semble quelque peu contestable. Alors, le compatriote et contemporain de Weber, le sinologue allemand Wilhelm Grube, consacre lui aussi une étude à la religion et au culte des Chinois, publiée à Leipzig en 1910 et intitulée en allemand donc Religion und Kultus der Chinesen, dans laquelle il fait une constatation similaire à celle de Weber. Mais en tant que sinologue, Grube était véritablement un sinologue. Alors je cite, « Le fait est que les Chinois ne connaissent pas la différence fondamentale entre religion, donc en allemand religion, et enseignement, lehre, et qu'il n'existe pas en conséquence de différenciation linguistique entre ces deux concepts. Nous devons prendre conscience une fois pour toutes que du point de vue des Chinois, la religion en tant que telle n'est rien qu'un enseignement parmi d'autres. Le terme chinois pour confucianisme, et là Grube cite également donc le terme chinois Zhu Jiao, ne signifie rien d'autre que l'enseignement des lettrés ou des érudits, c'est-à-dire des adeptes de Confucius, ou en d'autres termes, l'école ou l'enseignement de Confucius. Cela a exactement le même sens que lorsque nous parlons de l'école de Platon, Kant, Hegel ou Darwin. » Fin de citation. Donc, aussi bien Grube que Weber observent, nous sommes dans les années 1910-1920, donc observent qu'il n'y a pas en chinois de terme spécifique pour religion. Pour eux, il existe bien deux termes connexes, à savoir d'un côté lehre, enseignement ou doctrine, et riten, donc les rites. Donc le premier terme, lehre, se référant à une école des lettrés, tandis que le second, riten, est employé par les Chinois sans distinguer, je cite Weber, s'ils sont de nature religieuse ou conventionnelle. En outre, le terme officiel chinois Zhu Jiao, donc cité donc par ces deux savants allemands et traduit par le néologisme européen confucianisme, ne désigne pas une religion, mais cette doctrine ou enseignement des lettrés. En d'autres termes, Weber et Grube ont bien vu que la catégorie de religion, au sens où elle est entendue dans le contexte européen et avant tout chrétien, religion entendue comme système structuré de croyances et de pratiques, séparé de la société et organisant les fidèles en une église. Donc cette conception-là de la religion n'est pas adaptée pour rendre compte de cette notion chinoise de tiao, donc le composé de cette expression zhu tiao. Or, c'est autour de ce terme de tiao que s'est formé tout un conglomérat de malentendus dont nous avons encore du mal à nous extirper aujourd'hui. La complication vient du fait que c'est ce terme de tiao qui a été utilisé pour former un néologisme en japonais, le japonais donc shukyo, prononcé en chinois donc tsongtiao. Donc c'est ce néologisme adopté du japonais aux alentours de 1900, c'est-à-dire au tournant des 19e-20e siècles, pour traduire le concept occidental de religion. Donc ce mot zongjiao ou shukyo en japonais, qui aujourd'hui traduit conventionnellement le mot religion, est composé donc de zong, qui désigne la lignée ancestrale principale, et de tiao, qui veut dire donc enseignement ou doctrine. Alors c'est ce composé qui a été adopté au Japon dans les toutes premières années de l'ère Meiji, entre 1868 et 1912, cette ère Meiji qui a marqué au Japon cet effort extraordinaire de modernisation, c'est-à-dire d'occidentalisation. Alors, ce terme donc a été adopté au Japon et a ensuite été importé à la toute fin du XIXe siècle en Chine, où il s'est retrouvé dans les toutes premières tentatives de traduction en chinois de textes concernant la religion et l'Église chrétienne. Alors, ce terme de zongjiao apparaît donc comme l'un de ces nombreux néologismes qui ont été forgés pour traduire des concepts européens dans ce Japon de l'ère Meiji, lancé dans la course à la modernisation sur le modèle occidental, puis emprunté tel quel en Chine, ce qui a été pour la Chine une extraordinaire commodité du fait de l'identité de l'écriture. L'écriture japonaise étant en partie composée donc de ces fameux kanji, c'est-à-dire de ces caractères chinois qui ont été empruntés à la Chine par le Japon dans le courant du premier millénaire de l'ère chrétienne. Donc vous avez cette proximité de l'écriture qui a grandement facilité donc ce transfert de savoir du Japon vers la Chine. Donc on pourrait dire que la Chine a ainsi reçu du Japon un nouvel équipement terminologique, en quelque sorte clé en main. Et ça, c'est évidemment un apport que en Chine actuellement, on a un peu tendance à passer sous silence, hein, vu en tenant compte évidemment de l'histoire assez tourmentée entre le Japon et la Chine au cours du XXe siècle. Alors, c'est donc avec l'introduction par la médiation japonaise du concept occidental de religion, traduit par zongjiao, que la question du caractère religieux ou non du confucianisme a commencé à obséder les esprits en leur imposant de prendre parti et de se prononcer pour ou contre. Donc dans la modernité du premier XXe siècle chinois, vous avez donc les partisans justement de cette thèse que le confucianisme est en effet une religion, et les opposants donc à cette thèse. Alors jusqu'à la fin du XIXe siècle, le confucianisme apparaissait pourtant non seulement comme un tiao, c'est-à-dire comme un enseignement, mais comme le Tao archétypal par lequel il faut entendre avant tout le Li Tao, c'est-à-dire littéralement l'enseignement ou la science des rites. Et en cela, donc, nos deux savants allemands que j'ai cités tout à l'heure, donc Weber et Grube, avaient bien raison justement de d'identifier donc d'une part l'enseignement et d'autre part donc les rites. Donc pour les Chinois, en fait, vous aviez tout simplement un enseignement des rites. Alors nous avons longuement insisté l'an dernier sur le caractère essentiellement continuiste de cet enseignement rituel ou ritualiste qui imprègne intégralement la conception confucéenne du monde cosmique comme du corps sociopolitique. Et j'aimerais donc revenir justement sur ce caractère continuiste parce que c'est quelque chose d'important pour comprendre la suite de notre propos. Le continuisme du ritualisme confucéen ne constitue pas un corps de doctrine, de notions ou de valeurs abstraites. Parce que quand on parle de doctrine confucéenne, on a tendance à traduire dans des termes qui nous sont plus familiers, c'est-à-dire donc une sorte de corpus de notions, de valeurs ou de croyances abstraites. Ce continuisme se traduit dans des pratiques qui peuvent aller des grands rites cérémoniels de la cour impériale jusqu'à des pratiques domestiques, voire individuelles, que ce soit des pratiques d'ordre éthique, esthétique, diététique, thérapeutique ou tout autre tique. Le continuum inhérent à ce ritualisme englobe ainsi tout à la fois les dimensions macrocosmiques et microcosmiques, les dimensions visibles et invisibles, ou en termes cosmologiques chinois, la dimension yang, c'est-à-dire donc la dimension solaire, lumineuse, visible, et la dimension yin, c'est-à-dire la dimension lunaire, cachée, sombre, invisible. Donc, on mesure à quel point l'introduction de la notion de religion, d'origine européenne et donc avant tout chrétienne, a représenté une rupture dans ce continuum. Par contraste, la conception proprement religieuse se caractérise avant tout comme dualiste, en établissant une claire démarcation entre le transcendant et l'immanent, entre le divin et l'humain, entre le sacré et le profane, entre le clérical et le laïc, entre le religieux et le séculier, entre ce qui revient à Dieu et ce qui revient à César. En somme, ce dualisme semble s'opposer radicalement donc à ce continuisme ritualiste qui fonde la dimension indissolublement politico-religieuse du pouvoir en Chine. Alors, on trouve l'illustration et l'explicitation de cette vision continuiste dans les grands traités ritualistes compilés à l'époque Han, c'est-à-dire au moment de la fondation véritablement de l'ère impériale entre le IIe siècle avant et le IIe siècle de l'ère chrétienne. Donc à ce moment où se mettent en place les structures politiques d'un nouvel ordre impérial centralisé. Et je rappellerai que cette dynastie Han a joué un rôle déterminant donc dans la constitution d'une identité chinoise qui est restée donc Han depuis cette époque. Alors, sous les Han, il existe plusieurs compendia portant sur les rites qui sont étonnamment volumineux, surtout au regard des ouvrages de l'époque. Je rappellerai que nous avons à l'époque une contrainte matérielle dans le fait que les ouvrages sont tous manuscrits sur des supports de lattes de bois ou de bambou et par conséquent extrêmement longs à écrire et lourds à transporter. Donc nous avons ces compendia ritualistes qui sont d'une longueur assez remarquable pour cette époque. Donc à bien des égards, l'accent mis sur les rites et sur la culture ritualiste semble constituer un trait spécifique de cette période du tout début de l'ère impériale, qui correspond donc, comme on l'a vu, au tournant de l'ère chrétienne, cette époque où se fait jour le besoin d'intégrer dans une même vision, unifiée, tous les éléments de la vie sociale et politique. Alors, ces compendia ritualistes traitent en effet tout aussi bien des rites officiels, tels que les grands sacrifices et rituels de cour, que des rites domestiques, notamment ceux du mariage et du deuil, et même des rites de la vie individuelle et personnelle. Vous avez des indications rituelles sur la façon correcte de se comporter, de se vêtir ou même de se nourrir. Alors, autant dire que li est un terme générique qui sert à désigner un faisceau de réalités et de pratiques très diverses et situées à des niveaux très différents. Et pourtant, donc, qui font partie d'un même ensemble. Alors, l'un de ces compendia est le traité des rites, en chinois donc le Li Ji. Alors, le chapitre 7, ce chapitre Li Yun, sur l'évolution des rites, dans le traité des rites, place dans la bouche de Confucius un propos qui fait des rites un moyen d'établir la continuité entre le céleste et l'humain. C'est un passage que nous avons étudié l'an dernier, donc je me contente de le lire en traduction. Yan Yen, donc, qui est un disciple de Confucius, interroge de nouveau, pose cette autre question. Les rites sont-ils donc littéralement d'une telle urgence, c'est-à-dire d'une importance si vitale? Et Confucius répond, les rites, c'est ce qui a permis aux anciens rois de seconder la voix du ciel et d'ordonner les sentiments des humains. Donc, parallélisme entre le tian zhi dao, c'est-à-dire donc la voix du ciel, et ren zhi qing, c'est-à-dire donc les sentiments ou les émotions donc des humains. Celui qui perd cela de vue est un homme mort, alors que celui qui le préserve vivra. Vous avez ensuite une citation du livre des poèmes, qui est considéré dans la tradition confucéenne comme un livre canonique. Donc ce livre des poèmes dit « Le rat, vous prenez un rat, il est bien doté de membres. Et si vous prenez un homme, comment est-ce qu'il peut être dépourvu de rites ? Autrement dit, un homme sans rites, c'est comme un rat qui n'aurait pas de membres. » Et la citation des poèmes continue en disant « Un homme dépourvu de rites ne ferait-il pas mieux de mourir tout de suite ?» Autrement dit, puisqu'il n'est pas humain, il serait mieux mort. Et ensuite, la citation donc, du traité des rites continue, c'est ainsi que les rites ne trouvent leurs racines que dans le ciel, leur modèle que dans la terre, leur ordonnancement que dans les mânes et les esprits, Ils s'étendent jusqu'au rite funéraire, jusqu'au sacrifice, jusqu'à la pratique du tir à l'arc et de la conduite du char, jusqu'à la cérémonie d'imposition de la coiffe virile et la cérémonie du mariage, et jusqu'aux audiences et aux visites de cour. Donc là, vous avez en fait toute l'étendue justement de la pratique des rites. Dès lors que les sages rois ont fait connaître ces rites, et là vous avez une expression qui sera importante pour nous, hein, le tout sous le ciel, c'est-à-dire le tianxia, tout sous le ciel, c'est-à-dire le monde dans son entier, chaque pays, chaque famille ont pu être gouvernés dans la droiture. Fin de citation. Alors, on voit ici l'appariement et le parallèle établi donc entre le ciel Tian et l'homme Ren. Ce parallélisme si caractéristique de la cosmologie dite anthropocosmique, hein, c'est-à-dire donc entre l'homme et le cosmos, de la fin des royaumes combattants et de l'époque Han, c'est-à-dire entre, en gros, la fin du IVe siècle et la fin du Ier siècle de l'ère chrétienne. Et un peu plus loin, dans ce même chapitre Li Yun, c'est-à-dire sur l'évolution des rites, se trouve développé le remarquable continuum qui relie l'univers et le monde humain, les éléments naturels et surnaturels. Là aussi, donc, je me contente de lire la traduction. Lorsque les sages rois ont établi les règles, ils n'ont pu que prendre pour fondement le ciel-terre, pour principe le yin et le yang, pour gouvernail les quatre saisons, pour repère le soleil et les étoiles, pour mesure la lune, pour acolyte les manes et les esprits, pour matière les cinq éléments, pour outil les rites et le sens du juste, pour champ à cultiver les émotions des humains et pour animaux domestiques les quatre créatures magiques que sont donc la licorne, le phénix, la tortue et le dragon. Donc, vous voyez donc à travers cette citation qu'il n'y a absolument pas de démarcation entre le cosmos, hein, c'est-à-dire donc le ciel-terre, le yin-yang, les saisons, le soleil, les étoiles, la lune, hein, entre donc le cosmos, le monde surnaturel des esprits et des divinités et le monde humain, hein, qui est représenté ici par les rites, le sens du juste et les émotions. Cette parfaite intégration de l'ordre humain dans l'ordre cosmique, on la trouve exprimée de la manière la plus claire dans les écrits attribués à un maître à penser de l'Antiquité préimpériale, appelé Maître Xun, en chinois Xunzi, qui a donné son nom donc à un ouvrage attribué donc à ce penseur de la fin de l'Antiquité préimpériale, qui aurait vécu entre les 4e et 3e siècles avant l'ère chrétienne, et qui se présente comme l'un des héritiers majeurs de l'enseignement de Confucius, et qu'on associe le plus souvent à un autre penseur plus connu, Mencius, en chinois Mengzi. Alors, dans cet ouvrage, le Xunzi, au chapitre 17, consacré au ciel, hein, le Tianlun, on trouve cette image très frappante de la triade ciel, terre, homme, Tian Di Ren. Et le ciel, la terre et l'homme représentent chacun donc une sorte de puissance cosmique qui a son rôle propre. Le ciel recouvre, la terre porte, et l'homme met les choses en ordre. Vous avez donc cette citation de ce chapitre qui dit ceci: le ciel a ses saisons, la terre ses richesses ou ses ressources, et l'homme son ordre, sa façon d'ordonner les choses. C'est ainsi qu'ils peuvent former une triade. Les étoiles tournent en bon ordre, le soleil et la lune brillent tour à tour, les quatre saisons se succèdent, yin et yang opèrent leur grande transformation, vent et pluie se propagent partout, les 10 000 êtres trouvent chacun l'harmonie requise pour leur engendrement et la nourriture nécessaire à leur accomplissement. Fin de citation. Donc, cette triade anthropocosmique, ciel, terre, homme, a connu une fortune telle qu'elle a donné lieu à une interprétation, on pourrait dire presque une sorte d'étymologie, mais purement fantaisiste, de ce caractère Wang, qui signifie donc le roi, et dont une source d'époque Han explique la graphie de la façon suivante, c'est-à-dire que vous avez dans ce caractère 3 traits horizontaux qui représentent le ciel en haut, la terre en bas et l'homme au milieu. Donc ces 3 traits horizontaux qui sont traversés en leur milieu par un trait vertical qui représenterait, lui, le roi ou le souverain, une sorte d'axis mundi qui relie donc les 3 ordres cosmiques que sont le ciel, la terre et l'homme. Et donc, au cœur de cette triade, l'homme tient toute sa place entre le ciel et la terre, dont il parachève l'œuvre cosmique. Et dans un autre chapitre de ce même ouvrage attribué à Maître Xun, donc le Xunzi, au chapitre 19, intitulé le Li Lun, c'est-à-dire sur les rites, consacré aux rites, vous avez cette autre citation. Les rites ont 3 racines. La première racine, c'est le ciel-terre, qui est la racine de la vie. La deuxième, ce sont les ancêtres, qui sont la racine de la famille. La troisième racine, ce sont les princes et les maîtres, qui sont la racine de l'ordre humain. En effet, sans le ciel-terre, quelle vie y aurait-il ? Sans les ancêtres, quelle famille y aurait-il ? Et sans prince ni maître, quel ordre humain y aurait-il ? S'il manque une seule de ces 3 racines, il n'y a pas de sécurité possible pour l'homme, donc de vie assurée pour l'homme. Voilà pourquoi c'est par les rites qu'on sert en haut le ciel et en bas la terre, qu'on honore les ancêtres et qu'on vénère princes et maîtres. Telles sont les 3 racines des rites. Fin de citation. Alors, je rappellerai que certaines sections de cet ouvrage, le Xunzi, et en particulier de ce chapitre consacré aux rites, se retrouvent quasiment mot pour mot dans les compendia ritualistes dont je parlais tout à l'heure, et notamment donc le traité des rites. Donc, ces 3 racines dont parle le Xunzi, c'est-à-dire le ciel-terre, les ancêtres et les princes et maîtres, constituent ce qu'on a appelé communément les 5 grands, les Wuta. Et j'ai rappelé l'année dernière que ces 5 grands font l'objet d'un culte populaire qui s'est transmis jusqu'à aujourd'hui. Encore aujourd'hui, dans certains temples, vous avez donc ces autels consacrés donc à ces 5 grands. Donc on peut dire que depuis les sources anciennes et jusque dans les pratiques culturelle contemporaine, toute la vision chinoise du monde est habitée par la continuité entre le ciel-terre, c'est-à-dire l'ordre cosmique, et l'ordre humain, qui se traduit en termes religieux par un culte rendu aux ancêtres, et en termes politiques d'autorité du prince, et en termes sociaux, donc, sous forme de transmission de maître à disciple. Donc vous avez ainsi une sorte de cadre qui englobe, au fond, toute la vie et toute l'activité humaine. Alors, lors de l'avènement de l'ère républicaine, après la chute définitive de la dynastie Manchu et avec elle de tout le régime impérial en 1911, c'est-à-dire il y a un peu plus d'un siècle, ce caractère Tun qui désigne l'empereur, donc, a été remplacé par le caractère Kuo qui signifie donc le pays. Et donc ce remplacement de la mention de l'empereur par la désignation du pays est censé donc marquer le passage de l'empire à l'État-nation, hein, qui était devenue donc la Chine entre-temps, hein, c'est-à-dire donc avec ce basculement de 1911 et ce passage du régime impérial au régime républicain. Mais après l'instauration de la République populaire de Chine et du régime maoïste en 1949, et surtout pendant la révolution culturelle des années 1966 à 1976, ces 10 années qui ont marqué, on pourrait dire, le paroxysme du régime maoïste, donc à partir de ces années-là, donc dans les années 50 jusqu'aux années 70, l'autel des ancêtres a été considéré comme un vestige des superstitions féodales, donc dans le vocabulaire de l'époque, les fongjian mixin, et un vestige de ce qu'on appelait la vieille société, hein, la jiu shehui. Et donc cet autel des ancêtres a été le plus souvent carrément enlevé ou détruit pour laisser place à un poster du grand timonier, hein, le président Mao, lequel s'est donc de facto retrouvé à la place de l'empereur, voire en quelque sorte divinisé. Mais donc après la révolution culturelle, dans certaines maisons, on a quelquefois gardé donc cette figure du président Mao, ou alors on a remis donc ces cinq caractères, donc des cinq grands. Alors, un anthropologue allemand du nom de Hans Steinmüller, qui enseigne actuellement à la London School of Economics, à la LSE, et qui a travaillé en anthropologie rurale de la Chine, a effectué donc une enquête de terrain dans une zone rurale de la province du Hubei, dans la Chine centrale, entre 2005 et 2007, et a publié à ce sujet donc un article paru en 2010 dans la revue Focal, The Journal of Global and Historical Anthropology, c'est-à-dire le journal de l'anthropologie globale et historique. Et dans cet article, vous avez un dessin et qui est dû à un certain monsieur Song, que Steinmüller appelle Song Lao Shi, c'est-à-dire donc maître Song. Hein, donc il y a une espèce de rapport de respect vis-à-vis justement du maître. Alors ce monsieur Song est apparemment un habitant du village où Steinmüller faisait son terrain anthropologique. Et ce monsieur Song était chargé de lui donner un enseignement de chinois classique et, je cite, de culture locale. Et donc, Monsieur Song lui a fait ce dessin où vous voyez donc de nouveau reproduit ces cinq caractères, donc Tian Ti, Jun, Qin, Shi, c'est-à-dire donc ciel, terre, prince, famille ou parents et maître. Et donc il lui a schématisé au fond la disposition donc de l'autel des ancêtres. Et Steinmüller nous donne ensuite la schématisation de la disposition spatiale de cet autel des ancêtres qui occupe le centre de la maison. Vous avez ici en position numéro 1 donc le Ancestral Shrine, c'est-à-dire donc l'autel des ancêtres, ou le Mao Poster, c'est-à-dire donc vous avez soit justement cet autel des ancêtres ou il est occupé par la figure de Mao. Donc cet autel des ancêtres occupe une position centrale et axiale avec une disposition symétrique des portes principales, donc à double battant. La pièce principale où se trouve cet autel et de chaque côté donc les chambres latérales qui sont disposées donc de façon symétrique par rapport à ce centre et par rapport à cet axe. Alors cet axe qui détermine l'orientation de la maison en vertu des fameux principes de géomancie ou de ce qu'on appelle en chinois le feng shui, c'est-à-dire littéralement le vent et l'eau, qui donc décident en particulier de l'exposition et l'orientation des maisons en fonction de la circulation de l'air et de l'eau. Et vous avez cet axe, cette disposition spatiale, qui correspond également à une disposition hiérarchique des membres de la famille. Et donc Steinmüller nous donne donc la schématisation d'une table de banquet, donc une table ronde comme vous en voyez très souvent même ici dans les restaurants chinois, donc avec le plateau tournant au milieu, donc une table ronde où les convives en fait sont disposés toujours en fonction de cet axe central. Donc le numéro 1, c'est donc le membre le plus important de la famille, ça peut être le chef du clan, qui est assis toujours du côté de l'autel des ancêtres. Et à l'opposé, vous avez donc le membre hiérarchiquement le moins important, donc, qui lui est du côté de la porte, avec donc la disposition symétrique des autres membres de part et d'autre de la table. Donc cette disposition spatiale, nous allons la retrouver plus tard, donc c'est pour ça que je vous la montre, pour que vous vous souveniez un petit peu justement de l'importance de cette spatialisation. Alors ce que j'ai voulu vous montrer ici, c'est que depuis les sources anciennes, puis impériales, et jusque dans les pratiques cultuelles contemporaines, toute la vision chinoise du monde est habitée par la continuité entre, d'une part, le ciel-terre, c'est-à-dire l'ordre cosmique, et d'autre part, l'ordre humain, qui se traduit en termes politiques d'autorité du prince et, on pourrait dire, en termes sociaux, de transmission de génération en génération, de maître à disciple. Et vous avez donc la continuité entre l'ordre cosmique et l'ordre humain qui est assurée par le culte rendu aux ancêtres. Alors, vous vous souvenez peut-être que l'année dernière, nous avons un petit peu insisté sur ce continuum établi par la culture ritualiste entre l'humain et l'au-delà de l'humain. Alors l'au-delà de l'humain, ça peut être une dimension cosmique, la dimension de ce que les Romains appelaient le numineux, le noumen, ou bien la dimension invisible, la dimension yin. Et donc, dans ce continuum, le rôle axial est tenu par les ancêtres et le culte dont ils sont l'objet. Alors, ce culte des ancêtres, comme on l'a vu, a occupé une place centrale dès la haute antiquité des Shang, c'est-à-dire au deuxième millénaire avant l'ère chrétienne, où on voit une multiplicité de cultes et de sacrifices qui sont rendus à des puissances de la nature. Ça peut être des fleuves, ça peut être des montagnes, des vents, des points cardinaux, mais se dégage l'importance des sacrifices et des actes de divination qui sont dédiés aux ancêtres royaux. On a le sentiment donc que ce culte aux ancêtres royaux apparaît donc de façon beaucoup plus organisée que ces divers cultes réservés aux divinités naturelles. Alors, les ancêtres sont perçus comme des esprits, c'est-à-dire qu'ils appartiennent au monde des Kueishen, c'est-à-dire des manes et des esprits, puisqu'ils résident dans le monde des morts. Mais en même temps, les ancêtres maintiennent un lien organique avec leurs descendants vivantes. Et en tant que tels, c'est-à-dire en tant que résidents à la fois dans le monde invisible des esprits et en même temps en ayant ce lien organique avec les descendants vivants, ils sont susceptibles d'assurer une médiation avec donc les puissances surnaturelles. Donc les ancêtres ont ce statut très particulier, donc de continuer à jouer un rôle dans la communauté humaine des vivants, et donc ils gardent leur statut dans la parenté, et en même temps donc ils sont susceptibles d'intercéder auprès des divinités pour le compte de leur descendance vivante, d'où l'importance évidemment des cultes funéraires donc dans la Chine ancienne et classique et jusqu'à aujourd'hui, comme vous avez pu le voir.
C'était Éloge du savoir, le Collège de France, avec aujourd'hui Han Cheng, titulaire de la chaire Histoire intellectuelle de la Chine. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Collège de France et vous pouvez télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Réalisation Anne Sécheret. Présentation Christine Goémé. Rendez-vous demain pour la suite du cours de Han Cheng. Belle journée à tous, à l'écoute de France Culture.